Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe de Bonjour Turbine est très heureuse de vous retrouver dans cette cinquième saison pour ce 73e épisode en direct sur Station B et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Alors évidemment en podcast sur les audioblogs Arte, Deezer, Spotify et j'en passe. Alors la thématique du soir ne pourrait exister si nous vivions dans un monde de bisounours, mais évidemment ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de faire la part belle à la lutte, la résistance d'individus qui le font, qui la font à la force du pinceau, du crayon ou tout autre objet artistique pour la beauté du geste et des yeux. Dessiner pour résister, dénoncer, lutter, c'est la thématique du jour. Alors je vous propose sans plus attendre un tour de table qui fera office de sommaire et qui nous permet de présenter aussi cette superbe équipe. Et je commence par un revenant, Lafken, welcome back.
Salut Thomas, ravi de revenir effectivement pour cette émission.
Bien que nous soyons voisins, Microfolie de Colombelle, je le rappelle. Tu nous parles de quoi ce soir, Lafken ?
Eh bien ce soir, je vais vous parler d'une des artistes qui est à l'honneur aussi à Dessiner pour résister, qui est Mariana Lorenzo. J'en dirai un peu plus tout à l'heure.
C'est noté. Nous avons ensuite Alain. Alain, toi, de quoi tu nous parles ce soir ?
Salut tout le monde. Ce soir, je vais vous parler de... un peu un historique très bref et très succinct du dessin, justement, pour résister. Et puis, je vais vous faire des CPV pour vous donner des conseils pour Noël.
Les CPV, je le rappelle, c'est des capsules pédagogiques et véridiques. J'allais dire périodiques, pas du tout. Nous avons également Jonathan avec nous ce soir. Jonathan,
tout va bien ? Bonsoir à tous, oui, très bien, merci.
Et alors, toi, tu nous parles de quoi ce soir ?
Moi, je parle de Rachita Taneja, donc, qui fait partie aussi de l'exposition « Dessiner pour résister ». Qui est une dessinatrice indienne et donc dont je dresse le portrait. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, comme Lafken.
Eh bien, c'est noté. Et nous avons l'honneur d'avoir aussi ce soir Léna avec nous, qui fait sa grande première avec nous.
Je suis toute stressée, mais je suis toute présente pour lire mon texte.
Alors, grande première, en fait, pas tant, parce que tu étais déjà venue sur un Bonjour Turbine, je crois, il y a tard à l'époque.
Il y a 2-3 ans, au moins, c'était sur la friche.
C'est ça.
Pendant un live du WIP.
Exactement, sur un gros live, ouais.
Oui, mais
ouais.
C'était une super expérience, donc je suis de retour.
Trop bien, eh ben, on est heureux de te retrouver. Et toi, du coup, ce soir, tu nous as préparé une chronique sur...
Bah, dessiner pour résister, mais avec un point de vue beaucoup plus personnel, puisque le dessin est ma première passion, donc j'avais envie de lui faire une petite déclaration d'amour.
Eh ben, on a hâte d'entendre ça. Et alors, nous avons également David l'Intrépide, qui est en cabine. David, de quoi tu nous parles, toi, ce soir ?
Eh bien, je vais vous parler d'un roman jeunesse de Ruta Sepetys, qui s'intitule « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre ».
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, David. On te retrouve en fin d'émission. Et nous avons évidemment à la technique la grande Marion. Marion, comment vas-tu ce soir ?
Mais ça va très bien. J'ai hâte de vous entendre tous.
Eh bien, écoute, on va commencer déjà à en découdre dès maintenant avec Alain qui va nous faire un petit historique de code dessiné pour résister.
Dessiner pour résister, pour lutter, pour informer, pour ne pas oublier, pour raconter, transmettre, pour rire, pour se moquer. Je n'entrerai pas dans les détails historiques longs et ennuyeux. Je vous propose quelques pistes qui, si elles vous intéressent, vous pouvez les explorer sur la toile. Pas d'araignée, mais sur Internet. Depuis l'Égypte antique, avec les hiéroglyphes, le Moyen-Âge par la peinture ou la tapisserie dans les livres et les journaux, le dessin a été l'outil des puissants pour se mettre en valeur, mais aussi des petits, des opprimés, pour lutter, pour se battre. Les caricatures comme armes politiques ou pour la liberté de la presse, pour combattre les dogmes, les religions, comme les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo qui ont conduit aux tragiques attentats toujours présents dans nos mémoires pour illustrer l'actualité de nos journaux, pour dénoncer les puissants comme les nobles et les rois qui ont fait notre histoire, caricatures non sans risque, non plus d'ailleurs, emprisonnement, voire plus. Je vous conseille de vous intéresser aux célèbres poires de l'Ancien Régime. Vous verrez, c'est assez c'est drôle, mais c'était pas forcément bien pris par ceux qui étaient devenus des poires. Les graffitis aussi, pour témoigner, mais aussi pour dénoncer ou résister, comme Banksy par exemple, mais bien d'autres, pour délivrer des messages. De haine ou de désinformation, aussi parfois dans tous les supports, comme le montre Anne Ténaès dans le documentaire « La démocratie assiégée », c'est visible sur Arte TV, ça se passe aux États-Unis. Le dessin pour survivre et pour témoigner, comme dans le livre « KZ, dessin de prisonniers des camps de concentration nazis », préfacé par Primo Levi aux éditions Steinkiss. Où ça reprend celui qui a collecté les dessins, il est recherché parmi tous les survivants de la Shoah, ceux qui avaient dessiné pendant la Shoah. Il a fait un recueil de tous ces dessins. Dessiné pour résister, comme dans la série documentaire sur Arte dont nous allons parler avec notre invité, donc je ne déflore pas le sujet. La bande dessinée aussi et le roman graphique témoignent ou racontent aujourd'hui des faits, des actes, des personnages qui, par leurs actions, ont résisté, ont aidé, ont joué un rôle, restés souvent inconnus du plus grand nombre. À ce sujet, à l'approche des fêtes, je vous présenterai sous forme de CPV quelques cadeaux de Noël que vous pourrez faire en achetant des ouvrages qui ne sont pas nécessairement très, très récents, mais que je vous recommande parce qu'ils touchent au sujet d'aujourd'hui. Et je finirai sur quelque chose, c'est aussi par rapport aux attentats, pour finir avec les attentats de Charlie, d'aller voir au mémorial la statue du chat transpercée de crayons, qui est assez évocatrice quant à l'importance de la liberté de dessiner ou de la presse.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup Alain pour ce petit rappel historique et je propose qu'on continue en s'amusant avec un petit quiz, oui, chers amis chroniqueurs, chroniqueuses. Ça met dans l'ambiance. J'adore ce jingle. Alors, tous les micros sont ouverts. Vous participez tous et toutes, même en cabine. David, Marion, ça vous concerne. Tu peux nous lancer un petit tapis. Voilà, pour le quiz. Alors, vous allez devoir deviner de quelle œuvre il s'agit. Une histoire qui sent le poisson pourri, mais qui révèle une réalité bien plus grave. Elle nous parle de nature, de politique et de scandale. La thématique abordée par l'œuvre est une problématique qui touche particulièrement une région frontalière à la Normandie. Je suis verte, je pue, et je suis le fruit d'une agriculture intensive. Je suis...
C'est l'histoire des algues, ouais.
Les algues vertes, effectivement. Vous avez 0,5 points, Lafken et Léna, que vous pouvez vous partager. Et un point pour toi, Alain, bravo. Prochaine question. Il prend les institutions à contre-pied, détourne les symboles et laisse tout le monde pantois, un peu comme un clown triste. C'est un peu le Picasso du pochoir, il arrive à transformer un rat en symbole de la révolte avec un simple coup de bombe, c'est le seul.
Et il a même fait une superbe représentation d'une petite fille tenant un ballon qui s'envole, je pense que c'est Banksy.
Effectivement, c'est Banksy, bravo! Vous êtes si cultivé. Je continue, il me reste deux questions. Je suis une œuvre d'abord née d'un roman, puis adaptée en bande dessinée pour que les plus feignants comme moi, la personne qui anime ce jeu, puissent se délecter de cette dystopie qui dénonce plusieurs aspects d'une gouvernance totalitaire, comme la surveillance omniprésente, effectivement, en 1984, qui existe en BD, ce qui est génial. Excellent. Vraiment, allez le lire.
Absolument, ouais. Magnifique.
J'ai les BD sous moi que je vous montrerai après, tout à l'heure, et que je pourrais même prêter. Oui, on y parle de surveillance omniprésente, de manipulation de l'information, de culture de la personnalité, de la langue comme outil de contrôle, de la peur comme moyen de domination et de la destruction de l'individu au profit de la collectivité. Bravo à tous, c'est bien 1984. Et alors, dernière question. Depuis la mort de Mahsa Amini, jeune femme kurde tuée par la police des mœurs en 2022 qui a déclenché un mouvement de protestation en Iran. Nombre de femmes iraniennes sont descendues dans la rue soutenues par des hommes pour crier leur colère face au régime et à la loi instaurée depuis la révolution islamique de 1979. Toutes et tous réclament plus de liberté, notamment la fin du port du voile obligatoire et les changements profonds dans le pays. Je suis une initiative nationale d'affichage et de diffusion des œuvres de graphistes internationaux, traduction visuelle du combat des femmes iraniennes. Je suis...
Beaucoup plus sérieuse.
Ah, vous ne l'avez pas, hein ?
Non.
Je suis femme, vie, liberté. Voilà, je vous invite vraiment à aller regarder. Il y a une centaine d'affiches qui représentent justement le combat de ces femmes. Donc, femmes, vie, liberté, une centaine d'affiches que vous pouvez imprimer et coller chez vous. Voilà, c'est ce que j'ai fait chez moi. Eh bien, bravo à tous, vous avez 3 points sur 4. Et je vous propose de continuer, cette fois-ci, par une CPV à nouveau proposée par Alain.
Donc, comme je vous le disais, je vous propose pour Noël d'offrir des BD à qui vous voulez, à vous-même si vous voulez. Alors, si vous voulez les acheter, je vous rappelle que le prix du livre étant unique, autant aller dans la librairie que vous préférez ou celle qui est le plus près de chez vous, plutôt que d'aller dans une grande surface ou dans des gros machins qui font beaucoup de sous et qui n'ont aucun conseil ou qui ne sont pas bons. Donc voilà.
Voilà, on l'a dit, pas de Fnac, pas d'Amazon, pas de Cultura.
Voilà. Alors, le premier livre que je vous conseille, ça s'appelle Algérienne, 1954-1962. C'est de Merali et Deloupi. Et la guerre d'Algérie, cette guerre qui n'était pas nommée comme telle, est un événement traumatisant des deux côtés de la Méditerranée. Cet ouvrage relate alors le combat des femmes oubliées dans la grande guerre des hommes. Des histoires qui s'entrecroisent et se répondent font le portrait des femmes de tous horizons, toutes portées par des opinions et sentiments variés sur cette terrible période. Le graphisme est très beau.
Et magnifique,
je vous le conseille. C'est chez Marabout, Marabule. Donc c'est BD de chez Marabout.
Et tu nous rappelles le titre, c'est
Algérienne, 1954-1962.
Très bien. Eh bien, merci pour cette première CPV. Je crois que tu en as encore deux autres en stock.
Tout à fait.
Et je propose une petite virgule avant que Léna, justement, nous parle de son rapport à l'écriture. Au dessin, pardon. Eh bien, Léna, nous sommes prêts à écouter ta douce voix.
Dessiner pour résister. En écrivant ce titre dans les notes de mon téléphone, j'ai fait une faute à dessiner. C'est terrible. Le dessin est ma première passion, mon premier ami, mon plus doux soutien, et j'arrive toujours pas à l'écrire. Comme une relation toxique, je lui ai toujours tout soutiré pour mon bon plaisir, sans rien lui rendre en retour. Il est temps, je pense, aujourd'hui, de lui avouer mes sentiments les plus sincères et lui présenter mes excuses. Car sans lui, sans les crayons et sans les feuilles de papier, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Quels seraient mes rêves, mes espoirs, mes projets et mes craintes. En maternelle, je ne présentais que des dragons dans mon carnet bleu en carton. Et quand dans la cour de récré, mon carnet finissait à terre par la main de la méchanceté, tu m'as toujours soutenue et poussée à continuer. Malgré les critiques, les regards et les jugements de certains, je savais que dans le fond, moi, j'étais bien sur mon banc en béton. Puis, quand en primaire, j'ai dessiné un visage sur la première page de mon cahier vert, j'ai compris que toi et moi, ça allait être pour la vie. Une étincelle est née ce jour-là, et elle ne m'a jamais quittée. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir développé ce sentiment profond chez moi, si jeune. Car grâce à ça, j'ai pu tuer le temps avec enchantement, de 8h15 à 17h30 pendant 10 ans, un sacré génocide temporel. Au collège, dans ma pochette en plastique transparente, j'ai glissé parmi mes croquis meurtriers un petit bout de papier d'un autre humain passionné. Une belle amitié en est née, ça fait 10 ans qu'on se connaît. En fait, tu provoques les rencontres. Même dans une gare routière à l'autre bout du monde, une gomme dinosaure dans une main et le crayon dans l'autre, je rencontre une dame au blouson orange qui me bouleverse de ses expériences. En réalité, les gens sont fascinés par toi. Tu es si mystérieux et indomptable, alors quand on arrive à t'apprivoiser, on se sent spécial, comme choisi par le destin. C'est ça qui est sublime. Tout se transforme, tout est un exutoire à émotion. Que ça soit par la pratique ou par la lecture de tes traits, tu transmets. De l'aquarelle au crayon, des couleurs au monochrome, des regards délicats au carbone, aux pattes grasses des pastels, des mots, des mains, des textures, des cris, des démarches, des lignes. Dessiner pour résister, c'est s'exprimer, avoir une voix, un regard. Tu as développé mes sens, tu m'as poussé à observer, à se questionner, à comprendre et à transmettre. Pour le meilleur comme pour le pire, grâce à toi, je vois. Et malgré les pages déchiquetées et broyées que nous avons traversées, je ne regrette aucun crayon à papier brisé. Je souhaite à tout le monde de te connaître. Tu as transformé mes heures en minutes et mes minutes en secondes. Tu m'as nourri inlassablement de toutes les saveurs et tu m'as appris que ma seule barrière, c'était moi. Pour avancer, nous avons résisté ensemble face au récré, face au temps, face au cours, face aux gens, face aux rires, face aux contraintes, face aux pleurs, face à demain. Aujourd'hui, j'avance, tête haute, avec force et volonté. Je sais que tu es près de moi. Ad vita aeternam, mon ami le dessin. Merci.
Oh là là, allez, on peut applaudir, hein, franchement. Donc un talent pour le dessin, mais aussi pour l'écriture et l'interprétation. Et alors, je crois qu'il y a un petit compte Insta sur lequel on peut voir quelques-unes de tes créations, je crois.
Oui, exactement. C'est Léna Desimon.
Léna Desimon. Eh bien, écoute, on mettra en description du podcast le lien de ton Insta.
Merci beaucoup.
Pour que les gens puissent juger.
Faut pas juger le regard d'autrui.
Non, je disais ça pour débunker un peu. En tout cas, c'était magnifique. Belle déclaration d'amour.
Merci.
Alors, nous allons passer à la première pause musicale et je vous propose d'écouter un morceau devenu l'hymne du mouvement Femme, Vie, Liberté dont je vous parlais il y a déjà quelques minutes. Alors, beaucoup d'Iraniens, d'Iraniennes connaissent maintenant par cœur le début de la chanson Baraï qui signifie pour en français. Je vous traduis les premières lignes. Pour danser dans la rue, pour la peur de s'embrasser, pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs. Des mots écrits par Shervin Hajipour, le jeune homme de 26 ans, a été condamné 3 ans de prison par un tribunal iranien pour incitation et provocation à des émeutes visant à perturber la sécurité nationale et la propagande contre le pouvoir. Alors je vous rassure, il est actuellement libre mais sous caution. Alors pour à nouveau rendre hommage au mouvement Femmes, Vie, Liberté en soutien aux Iraniennes et Iraniens, on s'écoute Baraï de Shervin Hajipour.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختهای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی،
vient de s'écouter Baraï de Shervin Hajipour et vous êtes toujours sur Bonjour Turbine en direct de Station B en différé sur Radio Pulse. L'émission de ce soir est consacrée au dessin qui laisse une trace pour dénoncer, lutter ou résister. Et avant d'accueillir notre invité Timothy Duquesne, je vous propose la deuxième CPV de l'émission avec Alain.
Donc toujours dans mes cadeaux de Noël, une BD de Pascal Bresson et Jérôme Méo qu'on avait reçu ici avec Jérôme... comment il s'appelle Jérôme...
Je ne sais plus du tout.
Il va me tuer, mais c'est pas grave. ça s'appelle Viktor Frankl, un héritage pour l'humanité. Lors de sa déportation au camp de concentration d'Auschwitz, Viktor Frankl, médecin psychiatre, se rend compte avec étonnement que les prisonniers les plus robustes, ceux qui sont dans l'action et qui mangent bien, sont les premiers à mourir très vite, alors que les plus faibles résistent plus longtemps. Face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens. À la libération en 1945, son expérience des camps lui permet de comprendre l'importance de trouver un sens à sa vie pour avoir l'envie et le courage de continuer de vivre. Il décide alors de créer une nouvelle forme d'analyse existentielle, la logothérapie. Sa méthode révolutionne la pratique thérapeutique en tant que science qui se penche tant sur les raisons de vivre de l'homme que sur les efforts pour les découvrir. C'est un très beau graphisme aussi, et c'est vraiment super intéressant. Donc le portrait d'un rescapé d'Auschwitz, je vous le conseille. C'est vraiment très, très très beau à lire, et c'est chez Hugo BD.
Donc une idée de cadeau de Noël à aller chercher chez votre libraire indépendant.
Tout à fait.
Sans plus attendre, nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Timothy Duquesne. Il est permaculteur de pixels. Et oui, vous n'avez certainement jamais entendu ce terme. Il nous expliquera en quelques mots en quoi cela consiste. Alors nous l'avons invité car il travaille conjointement avec la médiathèque Le Phénix à Colombelles sur un programme d'éducation au numérique, aux médias et à l'information. Et dans ce cadre, depuis quelques semaines, la médiathèque s'est proposée de se faire le relais d'une exposition appelée « Dessiner pour résister » que nous allons décortiquer ensemble. Salut Timothy.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Ah c'est bon, on t'entend bien, on t'entend. Alors Timothy, avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ce livre, L'avenir des pixels, je crois qu'il a été publié en 2015.
Oui,
c'est ça, c'est okay. Ça. Et qui est le point central de la plupart de tes actions sur le territoire normand.
Alors oui, il va bientôt fêter ses 10 ans, je ne le vois pas comme le point central, mais comme une des portes d'entrée vers un dispositif qui s'appelle maintenant donc l'avenir des pixels et qui se déploie à la fois dans le monde numérique et dans le monde physique. Donc dans le monde numérique avec un endroit, un îlot qui est le site internet et puis des ambassades qui sont des publications sur les réseaux sociaux. Et je parle d'ambassades parce que c'est des lieux qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Je pense là dernièrement, alors Twitter n'a pas disparu, mais le Twitter est devenu un environnement tellement toxique qu'il a été un lieu important pour partager des ressources. Et aujourd'hui, le compte continue à exister, mais il sera dormant. Et l'activité aujourd'hui va avoir lieu plutôt sur Blue Sky, sur ce type de publication. Et dans le monde physique, c'est par le biais d'interventions ponctuelles ou d'interventions au long cours, comme avec la médiathèque Le Phénix ou dans des établissements scolaires, qui sont des alliés dans la lutte contre la désinformation et pour voilà, s'informer de façon fiable et utile.
C'est très important en ces temps. Alors justement, tu l'évoquais, ton travail conjoint avec la médiathèque Le Phénix à Colombelles. Vous avez d'ailleurs dernièrement été récompensé pour votre programme dans la catégorie bibliothèque et médiathèque du prix EMI, donc éducation aux médias et l'information 2024, lors des Assises internationales du journalisme de Tours. Donc déjà, bravo pour cela, on peut vous applaudir. Et alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire en quoi consiste le programme que vous mettez en place et quels sont les différents combats que vous menez?
Alors, merci pour les applaudissements, mais en fait, pour nous, c'était extrêmement important, mais c'est une étape, c'est-à-dire que c'était simplement très important qu'on reconnaisse notre démarche éditoriale. Et en fait, cette démarche, on l'amène depuis 2021. Donc là, on a inauguré dernièrement la saison 4. Et le principe, c'est que ce programme d'éducation aux médias, à l'information et au numérique est organisé en saison, un peu comme les saisons de séries télévisées, avec au sein d'une saison un certain nombre de rendez-vous de différentes natures. Donc il y a des projections de films documentaires en présence des réalisatrices ou réalisateurs, conférences, tables rondes, ateliers de différentes natures. Là, il y a effectivement une exposition, ce qui est nouveau dans le dispositif. Et on bâtit les saisons avec Sophie Massé, qui est la responsable de la médiathèque. C'est vraiment un partenariat. Et sur le plan éditorial, c'est un vrai travail de coopération entre la médiathèque et l'avenir des pixels, donc entre Sophie Massé et moi, pour concevoir le programme avec un fil rouge qui nourrit l'ensemble des saisons. Et puis des fils rouges à l'intérieur de chacune des saisons et des résonances entre les différents rendez-vous.
Et alors le focus cette année 2024, il était porté sur...
Alors le Focus 2024, on a inauguré dernièrement, alors effectivement tu as mentionné que l'exposition est toujours visible à la médiathèque Le Phénix à Colombelles jusqu'au 1er décembre, Dessiner pour résister.
Allez-y.
Et Dessiner pour résister, c'était, on a repris cette expression comme titre de l'inauguration de la saison 4. Et donc là, les fils rouges, il y a plusieurs fils rouges, mais ils sont très bien incarnés par l'inauguration, c'est la lutte contre l'autoritarisme et contre les violences et oppressions masculines. On va retrouver ces enjeux-là dans les rendez-vous qui vont avoir lieu également dans la suite de la saison, janvier, mars, et puis deuxième trimestre, entre avril et juin également, avec des rendez-vous. Donc ce sont, ça va être nos fils rouges avec nos invités et les ateliers aussi qu'on va organiser par la suite dans la saison.
Oui, justement, vous l'aurez remarqué, chers auditeurs, quand même, la médiathèque de Colombelles, elle est quand même assez engagée. Hein. Il y a quand même de vrais sujets qui sont posés sur la table. Donc déjà, bravo à eux et elles pour ça. Et alors, justement, parlons-en de ce projet Dessiner pour résister. En quoi ça consiste? D'où ça vient? Ça vient à la base d'un documentaire, d'une série documentaire de portraits, c'est ça?
Alors, c'est un dispositif aujourd'hui qui est assez large, donc qui comprend une série documentaire de 6 films. Donc, on a des showrunners qui sont Vincent Cohen et Guillaume Vandenberghe. Les films documentaires sont réalisés dans les pays respectifs où se trouvent les dessinatrices, Mexique, Égypte, Inde, États-Unis, Russie, par à chaque fois une réalisatrice locale dans chacun des pays. Et c'est toujours une réalisatrice dans chaque pays. Et donc là, il y a la série documentaire. Certains des films ont déjà été diffusés sur Arte. Certains sont encore accessibles sur la plateforme. Il y a une exposition qui a pour titre Dessiner pour résister, en anglais c'est Draw for Change, et puis une expérience en réalité virtuelle, j'en dis pas plus.
Oui, l'AFKEN qui travaille la microfolie de Colombelles va nous en parler tout à l'heure.
Et tout un dispositif pédagogique également pour accompagner ça. Et donc, on trouvait pour inaugurer la saison que c'était une proposition de très grande qualité, à la fois par les thèmes qui sont soulevés, les enjeux qui sont soulevés et la qualité de la production. Et on a invité également, le 10 novembre, Marc Dubuisson, qui est un dessinateur et auteur de scénariste et dessinateur de bande dessinée, qui nous a rejoint depuis la Belgique. Il est venu à la médiathèque pour un échange avec le public. Et il a publié plusieurs albums. Il publie aussi régulièrement, il est très présent sur les réseaux sociaux, Instagram et alors aujourd'hui plutôt Blue Sky que Twitter. Et il a publié le 11 septembre 2024 un nouvel album qui s'appelle Les Envahisseurs, qui est remarquable. C'est une pépite et on était aussi ravis de le recevoir parce qu'il ça collait très bien au thème et à ce qu'on souhaitait soulever comme enjeu.
Alors, il me semble qu'il y a eu un entretien entre vous deux qui sera diffusé quelque part bientôt, non ?
Alors, il est en ligne. On l'a enregistré à distance, quelques jours après son retour en Belgique. On l'a enregistré lundi et ça y est, il est en ligne. Parce que c'est important, en fait, dans la démarche qu'on mène avec la médiathèque depuis le début, de produire des ressources intemporelles. En fait, les sujets qu'on aborde et les angles avec lesquels on les aborde, on souhaite que ce soit intemporel et qu'on puisse produire des ressources pour que ça puisse infuser dans la société et que ça touche le public au-delà du public qui a pu assister physiquement au rendez-vous lorsqu'ils ont eu lieu à la médiathèque.
Alors justement, venons-en au cœur du sujet, en quoi le dessin peut être un instrument de lutte, de résistance, de dénonciation ?
Eh bien, de différentes manières. Si je donne l'exemple de ce qu'on a pu se dire avec Marc Dubuisson, à la fois dans l'entretien qu'on a enregistré et puis avec la médiathèque, ce que j'ai trouvé remarquable, alors ce que je trouve remarquable dans son travail en général et qui est très bien incarné dans son album Les Envahisseurs, c'est qu'il nous aide à décrypter de façon très synthétique et efficace, et c'est réjouissant parce que c'est très drôle, les éléments de langage, les narratifs, les discours toxiques, les personnages toxiques, et ça permet de répondre à une des missions qu'on s'est assignée avec la médiathèque et qui est aussi une des missions de l'avenir des pixels, de faire en sorte qu'on se crée un filtre entre ce à quoi on prête attention et notre cerveau, et qu'on soit en permanence en train de décrypter et comprendre finement. Et lui, avec son travail de dessinateur, alors à la fois, on prend un plaisir comme lecteur, et il y a des éclats de rire toutes les 10 secondes, et en même temps, ça muscle le cerveau. Parce que ça permet de repérer tous ces éléments de langage et ces discours toxiques. Et donc de pouvoir prendre de la distance par rapport à ça.
Et j'ai l'impression aussi que le dessin reste quand même un langage assez universel et accessible. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de bandes dessinées qui documentent justement des faits, qui dénoncent aussi. Comment toi tu le perçois tout ça ?
Alors effectivement, il y a à la fois le côté universel. Moi je vous invite à aller parcourir les œuvres des dessinatrices qui sont mises à l'honneur à la médiathèque Le Phénix, et elles laissent des empreintes numériques quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et effectivement, il y a des dessins qu'elles publient qui nous parlent, alors qu'ils ont été produits et créés à des milliers de kilomètres de chez nous, et pourtant ça nous touche. Il y a à la fois le côté universel et puis il y a aussi le côté intemporel. Dans le travail de Marc Dubuisson, par exemple, très régulièrement, il a encore fait aujourd'hui, ce matin, il republie des dessins qui datent d'il y a plusieurs années parce que ils sont toujours d'actualité. Et donc, au gré de l'actualité, il fait ressortir des dessins anciens, enfin anciens, oui, qu'il a pu écrire il y a quelques années, parce que, comme c'est le fruit d'un travail de création vraiment pointu, enfin précis, rebondir à une actualité avec un nouveau dessin, ça n'a pas forcément du sens s'il a trouvé la bonne chute, le bon angle, que c'est efficace. Il fait ressurgir et puis ça permet le fait de faire ressurgir des dessins et donc de montrer que c'est intemporel. Ça, c'est aussi un signal sur notre société et le fait qu'on n'apprend pas forcément de nos erreurs.
Ça n'a pas beaucoup bougé, effectivement. Alors Timothy, tu restes avec nous. Jonathan, il a bien bossé sur le sujet, puisqu'il s'est rendu à la médiathèque de Colombelles pour voir l'exposition, mais pas que, il a aussi visionné un des 6 documentaires qui présentent ces femmes armées de leurs crayons. Alors il pose ce soir le regard sur l'une d'entre elles, nous l'écoutons.
En direct de live de Station B et pour l'émission Bonjour Turbine, la chronique de Jonathan.
Ne serait-ce pas un homme derrière cela ? Depuis quand une femme peut donner son avis politique ? Voici la principale idée qui circule autour de Rachita Taneja et de ses dessins. Née en 1991 à Delhi en Inde, cette autrice de BD autodidacte a créé un webcomic Sanitary Panels, issu d'un jeu de mots faisant référence aux serviettes hygiéniques, les Sanitary Towels. Grâce à ses personnages filiformes, Rachita Taneja a créé un univers graphique original qui dénonce les discriminations, le harcèlement, l'homophobie et la répression.
Et visiblement, on ne peut pas dire que ce soit du goût du gouvernement en place.
En effet, l'Inde est considérée comme la plus grande démocratie du monde, mais lorsque l'on y regarde de plus près, sur la liberté de la presse, le pays pointe à la 160e place sur 180, selon l'index de Reporters sans frontières. Vous l'aurez compris, les critiques envers le gouvernement ne sont pas toujours bien accueillies. Et pour ceux qui osent s'attaquer à la politique du pays, ils sont souvent victimes d'harcèlement en ligne, d'intimidation, de menaces, d'agressions physiques, mais aussi de poursuites pénales et d'arrestations arbitraires.
Alors justement, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte politique en Inde ?
Et bien sûr, et c'est un pays gouverné depuis 10 ans par Narendra Modi, le premier ministre indien issu du BJP, le parti nationaliste hindou. Partisan de l'Hindutva, il fait l'objet de nombreuses controverses pour ses dérives populistes, autoritaires, mettant les minorités non hindoues au second plan.
Et alors ok, mais quel est ce mot qu'on arrive presque pas à prononcer, Hindutva?
Eh bien, c'est une idéologie protectionniste hostile à toute autre religion que l'hindouisme, notamment l'islam qui est très présent en Inde, certains hindous allant même jusqu'à se regrouper au sein du RSS, collectif dont le but est de se préparer sur le plan physique et mental à résister aux musulmans accusés de menacer la majorité.
Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose.
Eh bien, moi aussi. Mais là n'est pas le sujet, mon cher Thomas. Ce qui nous intéresse ici, c'est Rachida Taneja, qui, de par son engagement dans ses dessins, n'échappe pas à l'oppression exercée sur les militants. Depuis 2020, pour trois de ses dessins publiés sur Twitter, elle fait l'objet d'une plainte pour outrage à la Cour suprême. Une plainte pour laquelle elle encourt jusqu'à 6 mois de prison. Rien que ça. Pour en savoir plus sur l'attente insoutenable de son procès, je vous invite à regarder le documentaire sur Arte dont elle fait l'objet. Vous y verrez une partie de ses illustrations animées pour l'occasion, son quotidien fait de doutes et de peurs, mais aussi comment le gouvernement crée, je cite, « des usines de la haine pour dénigrer les minorités ». Je terminerai ma chronique par cette citation de Gandhi, un autre indien très connu de tous. « Il faut chercher à émousser complètement l'épée du tyran, non pas en la heurtant avec un acier mieux effilé, mais en trompant son attente de voir lui offrir une résistance physique. »
Eh bien, merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que, Timothy, tu as une réaction à ce que tu viens d'entendre ou peut-être pour aller rajouter quelques mots sur ce personnage, Rachida?
Oui, super chronique de Jonathan. Et c'est marrant, en fait, que tu aies choisi de parler de ce film-là dans la série. Moi, j'ai regardé tous les films de la série, mais c'est celui-ci par lequel je suis rentré dans cet univers. Et j'ai d'abord découvert la série documentaire donc par l'intermédiaire de ce film. Et c'est après, en prenant contact avec la société de production, que je me suis rendu compte, parce qu'il pouvait tout expliquer, qu'il y avait tout un dispositif autour. Et effectivement, je vous invite alors tous les films ont leur particularité puisqu'ils sont réalisés par différentes réalisatrices. La réalisatrice de Drawing a Line, donc le film que tu évoques, Samapana, en fait, c'est un pseudo. Ce qui montre bien les risques que prend la réalisatrice. D'ailleurs, elle figure dans le film, mais sous la forme...
Oui, on la voit à la fin. Oui.
De bonshomme bâton.
Oui.
On la voit pas, en fait, pour protéger son identité. Et donc, comme les autres dessinatrices, en fait, Rachida Taneja est très courageuse. On la voit dans certaines scènes du film, également dans un festival. Elle se demande même si elle doit annoncer sur les réseaux sociaux sa présence à tel festival parce que ça annoncerait sa présence physique dans un lieu. Et on en est là en Inde, mais pas seulement.
Je vais reprendre un propos. Chez nous, il n'y a pratiquement pas d'art reflétant notre réalité. Et ça, c'est la dessinatrice russe Victoria Lomasko qui essaie d'y remédier au péril de sa vie. Est-ce que tu peux nous parler de cet artiste?
Alors, j'ai vu le film aussi. Je connais moins son travail. Pourtant, j'ai vu l'exposition. Je connais moins son travail que. Et d'ailleurs, je prétends pas avoir une connaissance très pointue du travail de chacune. Alors, je me suis abonné à tous leurs comptes sur Instagram pour qu'elles fassent partie de mes fils d'actualité.
Sur cette idée de dessiner la réalité qui paraît quand même assez loin de notre réalité, nous, Français, Françaises, quoi.
Oui et non. En fait, dans l'idée de dessiner pour résister, en fait, je vois deux angles. En fait, il y a résister à ce qui existe, et donc c'est effectivement dessiner le réel dans ce qu'il peut avoir de scandaleux, de brutal, etc. Mais c'est aussi accompagner le changement. Et il y a une autre phrase, et il me semble qui figure en fait sur l'exposition. Il me semble que c'est la même artiste. C'est le travail de l'artiste, c'est de peindre les formes de l'avenir souhaité pour l'aider à se réaliser. Et il y a également ça. Il y a à la fois résister à ce qui nous conduit vers des choses autoritaires, toxiques, sombres. Mais aussi montrer un chemin qui puisse apporter de l'espoir.
C'est un vecteur d'espoir, oui, aussi.
C'est aussi un vecteur d'espoir. Je pense, alors, je pourrais donner différents exemples. Je pense au travail de Geoffrey Dorn, par exemple, pendant la campagne des législatives, qui avait ouvert une plateforme où chacun était amené à créer des affiches en quelques minutes, voilà, et créer ses propres et utiliser le dessin. Pour promouvoir, enfin propager des messages politiques. Et il nous a doté de cet outil, voilà, pour automatiser et faciliter la démarche de production artistique.
Alors on va continuer justement notre focus sur ces autres artistes tout à l'heure avec l'Afghan qui vient de s'installer. Mais je vous propose avant ça une petite pause musicale. C'est un titre de Elle, donc de son prénom Raphaël Lanader, pardon. L'étincelle, c'est le titre. C'est un hymne aux femmes qui se lèvent et se cassent, à toutes celles qui l'ouvrent contre la société patriarcale pour la liberté et l'égalité de toutes, à travers la figure étonnante, rayonnante, inspirante et libre de Adèle Haenel, qu'on adore. Alors je vous invite évidemment à aller visionner le clip réalisé par Camille Scali, qui était à l'époque une jeune étudiante de 20 ans, qui a réalisé ce film d'animation. Allez, on s'écoute ça dès maintenant.
Adèle est un soleil et moi, quand je l'écoute, je veux me tenir droit et puis quitter les salles quand ça ne me plaît pas. Je veux être debout contre vent et scandale, sans plus jamais sentir dans le creux de mon cou, ni de gêne ni de joue, ni de gêne ni de joue.
Vous êtes toujours sur Bonjour Turbine, ce soir dessiner pour résister, c'est la thématique et je vais même pas faire de transition, on y va tout de suite avec l'Afghan puisque nous sommes déjà un petit peu en retard.
Est-ce que vous connaissez Mariana Lorenzo? Si vous me dites oui, c'est que vous êtes déjà porté sur son art. Sinon, il faut que je vous parle de Mar Maremoto. C'est une artiste qui réside au Mexique, une terre qui a fait rêver les cinéastes pour ses histoires de révolution, qui nous vend du rêve avec des films comme Coco, ou qui a marqué son histoire avec des peuples comme les Mayas et les Aztèques. Mais c'est aussi le pays où il y a le plus de féminicides, de violences et de viols qui se déroulent dans les rues. Cette artiste, elle a un truc, une manière de parler des femmes en les représentant dans un format plus grand, qui sort de son cadre, des géantes. Ces géantes, c'est une manière de symboliser que, quoi que subissent ces femmes, elles resteront fortes, soudées, et elles feront progresser la société vers le haut. Dans un reportage, que vous pourrez aussi retrouver sur arte.tv, elle vous décrit son quotidien, pourquoi elle choisit de dessiner des femmes, de montrer qu'à travers son dessin, elle résiste. On a même l'occasion de voir en direct un mec se garer en double file, la siffler et l'insulter une fois qu'elle refuse ses avances. Enfin, je vous dis avance, mais là on parlerait d'une technique de drague où insulter les filles ou les comparer à des animaux marins est censé fonctionner. Mais dessiner, c'est une chose. L'expérience est limitée à des œuvres d'art. Et c'est pour ça qu'avec le collectif Draw for Change, Maremoto a créé une application réalité virtuelle qui va changer la donne. Ou tout du moins impulser quelque chose. Cette application, elle vous met dans la peau de l'une de ces femmes dans ces rues de Mexico. La voix de Maremoto vous permettant de comprendre ce que ressent la gente féminine. Parmi ces expériences, il y en a une qui m'a marqué. Devant vous, un regard perçant qui vous juge. Et trois choix vous sont proposés. On tourne la tête, personne autour de nous, seulement ses yeux qui vous observent de loin. Et on choisit une des trois solutions. Erreur, ce n'était pas le bon choix. Les yeux se rapprochent, les battements d'un cœur se font entendre, plus fort. Et il nous reste deux options. On pointe notre deuxième choix avec la manette, espérant que celui-ci sera le bon. Et encore un échec. Les yeux se rapprochent, le battement du cœur tambourinote dans nos oreilles. Une pression supplémentaire et nous reste que la dernière solution. Toujours personne autour de nous. On ne doit pas échouer, on le sait. Car un échec signifierait que ses yeux seront à notre contact. Fébrilement, on tente la dernière solution. Combien de femmes ont-elles dû faire ce choix? Combien ont subi ce que j'ai vécu dans cette simulation? Une fois l'expérience terminée, une fois l'application éteinte, j'ai gardé ce passage en tête. Moi, un homme blanc, qui était bien à l'abri dans son local, a essayé une application, j'ai eu ne serait-ce qu'une petite fraction de ce que peuvent subir les femmes au quotidien dans un pays où 10 d'entre elles disparaissent par jour. Non, j'aurais pas la prétention de dire que je comprends ce qu'elles subissent. Mais c'est un premier pas pour en discuter, pour libérer des paroles et qu'ensemble, on puisse faire progresser les choses. Si j'ai écrit ce texte aujourd'hui, que je suis revenu à Bonjour Turbine après une longue absence, c'est que dans le cadre de Dessiner pour résister, j'ai vécu ce qui pour moi est une application réalité virtuelle que tout le monde devrait essayer. C'est aussi pour dire à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent venir à la Microfolie de Colombelles pour l'essayer à leur tour le 8 mars prochain. C'est aussi pour inviter le public à aller voir l'exposition qui se tient à la médiathèque de Colombelles jusqu'au 1er décembre. Et enfin, c'est pour que les hommes arrêtent de se comporter comme des... Allez. On se reverra l'année prochaine, Bonjour Turbine.
Et peut-être qu'on peut te revoir plus tôt que ça, peut-être même ce samedi. Il se passe quoi à la Microfolie?
Et ce samedi, on en a un autre. C'est Sébastien Toussaint qui vient nous voir ce samedi 30 novembre à 14h30. Et lui, c'est pas dessiné pour résister, c'est plutôt graffé pour ceux qui résistent. Donc il va raconter son expérience et son voyage à travers le monde et même dans des quartiers très difficiles. Comment il peut apporter aussi un petit peu de voix à des gens sans voix.
Seb Toussaint qui n'est pas méconnu ici puisqu'il a graffé sur la Grande Halle mais aussi au stade d'Ornano. Alors Timothy, dans les 6 portraits présentés dans le projet Dessiné pour résister, on retrouve aussi une américaine, Anne Telnaes, je ne sais pas comment on prononce, Altenaes, ça doit être quelque chose comme ça, oui. Une dessinatrice de presse américaine d'origine suédoise. Alors à première vue, nous ne sommes pas sur un régime autoritaire aux USA. Mais d'après elle, il est important d'occuper l'espace médiatique pour documenter, sensibiliser, alerter. Alors première question, est-ce que c'est encore utile à l'heure des algorithmes où on a l'impression qu'on ne s'adresse qu'à sa communauté ?
Alors oui, c'est absolument nécessaire d'occuper l'espace, je dirais l'espace attentionnel, à la fois en contexte numérique mais aussi dans le monde physique, pour faire le lien avec la chronique de Lafken, Maremoto, on la voit par exemple dessiner des fresques murales, donc elle occupe l'espace physique. Et c'est important de le faire également en contexte numérique. Et puis la question des algorithmes aussi, c'est de se dire on est aussi des algorithmes humains. Et donc on est amené à faire des choix et qu'on fasse ces choix en conscience et qu'on sache pourquoi on fait ces choix, comment on programme nous-mêmes notre propre attention. Et pas oublier ce qu'on fait là, par exemple, c'est un choix éditorial de votre part au même titre que si ce n'est que c'est des choix qui sont faits par des humains, là où les algorithmes ont été programmés par des humains, mais après exécutés par des machines. Et c'est évidemment important dans cet espace physique et numérique d'occuper l'espace. D'autant que si on lit le livre Pop Fascisme qui vient de sortir de Maxime Massé et Pierre Plotu, il y a véritablement un combat culturel à l'œuvre, notamment en France.
Alors justement, je vais un peu digresser sur ce sujet, mais on a évoqué les US là, et toi tu fais un gros travail d'éducation aux médias, l'information au numérique. Alors comment est-ce qu'il est possible qu'on arrive à ce qu'un maître de la fake news, du nom de Donald Trump, se fasse élire, et quel moyen est-ce qu'on a pour stopper cette grosse machine, l'omniprésence d'une communauté bien formée justement pour occuper le terrain?
C'est un vrai enjeu. La France a vraiment pris conscience de cet enjeu. Il y a deux jours, se tenait à la Fondation Descartes un colloque sur information, désinformation en temps de conflit. Et je ne peux pas résumer en quelques secondes, puisque les échanges ont duré toute la journée. Et c'est à la fois intéressant de constater que... on a bien conscience. Alors quand je dis en France, c'est il y avait des représentants de l'armée, des représentants du Quai d'Orsay, il y avait le directeur du CLEMI, et il y a une véritable, il y a un véritable enjeu absolument crucial de travailler le plus possible sur l'éducation aux médias. Ça se fait beaucoup en milieu scolaire et de façon intense et qualitative. Les médiathèques sont appelées à faire également ce travail de plus en plus. Ça peut se faire aussi dans d'autres contextes, le monde de l'entreprise, le monde associatif. En fait, on parle même de résilience informationnelle. On parle de guerre informationnelle. On parle aussi de résilience informationnelle. Et donc, l'enjeu, c'est de rendre les sociétés résilientes face à ce combat informationnel.
Alors, merci Timothy, tu restes avec nous, il nous reste très peu de temps, je suis désolé Alain, on va sauter ta CPV pour tout de suite passer à la chronique de David et on verra s'il nous reste du temps pour justement ta dernière CPV. Allez, c'est parti pour la chronique de David.
Une des fonctions de l'artiste peut être de s'engager à la défense d'une cause. Écrire, peindre ou dessiner, c'est aussi lutter, résister, avec l'espoir de finir par gagner en touchant les cœurs et en marquant les esprits. Plus que les mots, parfois les pinceaux, les crayons sont des armes qui dénoncent et touchent leur cible. Par exemple, on peut citer Honoré Daumier, le caricaturiste qui ridiculisait les juges au XIXe siècle. Picasso qui perpétua la mémoire de Guernica par son tableau, et plus près de nous, les journalistes de Charlie Hebdo. Au sujet des artistes militants et témoins, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un roman de Ruta Sepetys, autrice américano-lituanienne, qui a pour titre « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre ». Ce roman historique bouleversant relate tout un pan méconnu de l'histoire. En 1939, l'URSS de Staline envahit les pays baltes. Peu de temps après, le Kremlin établit une liste de personnes jugées anti-soviétiques et condamnées à être assassinées ou envoyées en déportation en Sibérie. On estime que 20 millions de personnes ont été éliminées durant son règne de terreur. Les pays baltes ont perdu plus d'un tiers de leur population pendant le génocide soviétique. Donc, pour réaliser ce roman, Ruta Sepetys a effectué deux voyages de recherche pour recueillir des témoignages. Elle signale « Bien des événements et des situations que je décris dans ce livre m'ont été racontés par des survivants et leurs familles qui ont partagé la même expérience que la plupart des déportés. » Ce roman, « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre », a pour héroïne Lina, une jeune lituanienne très douée pour le dessin. Elle doit intégrer une école d'art au moment où sa vie bascule en juin 1941. En effet, les gardes soviétiques l'arrachent à son foyer et la déportent en Sibérie ainsi que sa famille. Durant son périple, Lina va alors dessiner comme on tient un journal de bord. Elle crayonne les exactions des soviétiques, les plus pitoyables de ses compagnons d'infortune. Elle tente également de faire passer ses dessins à son père déporté dans un autre camp. « Je saurai que c'est toi », lui avait-il dit. « Tout comme toi, tu sais, au premier coup d'œil, reconnaître un tableau de Munch. » Comme les poilus en 14-18 dessinant sur les carnets ou en gravant dans la pierre, Lina veut absolument laisser une trace pour l'histoire et pour la mémoire. L'écrivaine explique à la fin de son roman l'importance de ses dessins. À leur retour au pays, vers le milieu des années 1950, les Lituaniens ont découvert qu'ils étaient spoliés de leurs biens. Ils avaient tout perdu et étaient traités comme des criminels, obligés de vivre dans des zones limitées sous la surveillance du KGB. Ils ne pouvaient évoquer leurs terribles expériences sans être de nouveau déportés ou emprisonnés. Ils souffraient dans le silence de leur cœur, craignant de voir la vérité disparaître à jamais. Mais des personnes courageuses dissimulèrent au péril de leur vie journaux et dessins dans la terre de leur patrie balte. Pour conclure, j'ai souhaité faire une dédicace à Lina, ce merveilleux personnage. Chère Lina, je salue ton courage, ta révolte. Tu m'as fait prendre conscience d'une histoire que je ne connaissais pas. Ces exterminations ont bien existé, même si certains continuent à le nier farouchement. Ton histoire est un hommage à la mémoire de tous les déportés. Évidemment, tu n'es qu'un personnage de fiction, mais je pense qu'une part de toi est toujours vivante dans le cœur des survivants. Merci pour ton témoignage, une leçon de mémoire pour le présent et le futur, afin de ne jamais oublier la vérité de votre histoire. Cordialement, David. Si comme moi, vous voulez découvrir les aventures de cette dessinatrice, je vous redonne le titre du roman « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre » de Ruta Sepetys. Je le montre à la caméra qu'il n'y a pas.
Effectivement. En tout cas, c'était un bonheur pour les oreilles. Tu l'as très bien décrit. Merci beaucoup, David. Et justement, on va continuer avec les références. Là, c'est vraiment une émission où on cite beaucoup de références. C'est Floriane qui a préparé justement un portrait d'Alessandro Pignocchi.
Dessiné pour résister. Mais résister, c'est quoi déjà? C'est ne pas céder, c'est faire front, s'opposer, protester, refuser, combattre. Je m'arrête là pour les synonymes. Car résister, cela peut être aussi autre chose. Questionner, imaginer, créer et ouvrir d'autres possibles. C'est avec l'idée non pas d'aller contre, mais de voir autrement, que je souhaitais vous parler ce soir du chercheur en philosophie de l'art, militant écologiste et auteur de bandes dessinées à l'aquarelle, Alessandro Pignocchi. Connu notamment pour la série Petit traité d'écologie sauvage, paru entre 2017 et 2020 aux éditions Steinkiss, Alessandro Pignocchi y imagine que l'animisme des Indiens Jivaros d'Amazonie, avec lesquels il a d'ailleurs séjourné quelque temps, est devenu la pensée dominante, y compris par milliers de dirigeants du monde. Dans cette BD en trois tomes, Alessandro Pignocchi fait donc ainsi émerger un monde où le concept de nature a disparu et où les plantes et les animaux sont désormais perçus comme des partenaires sociaux ordinaires. Un monde où le pouvoir ne fait plus envie à personne, ni même aux hommes politiques. Un monde où la culture occidentale moderne est réduite à subsister dans quelques petits villages français, au point qu'un anthropologue tente d'en sauvegarder les derniers vestiges. Bref, un monde où les valeurs s'inversent et où les rainettes reçoivent enfin la considération qu'elles méritent. Alessandro Pignocchi s'est également interrogé sur ce qui se tramait sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dans la recomposition des mondes parue en 2019 aux éditions Seuil. S'agissait-il seulement d'un cluster peuplé de hippies violents et trop drogués pour comprendre que le projet d'aéroport était enfin abandonné? Ou bien l'avant-poste, en Occident, d'un nouveau rapport au monde affranchi de la distinction entre nature et culture? Plus tard, en 2022, aux éditions Seuil toujours, Alessandro Pignocchi converse entre texte et dessin avec l'anthropologue français et professeur au Collège de France, Philippe Descola, dans « Ethnographie des mondes à venir ». Dans cet ouvrage illustré, les deux hommes esquissent les perspectives d'une société hybride qui verrait s'articuler des structures étatiques et des territoires autonomes dans un foisonnement hétérogène de modes d'organisation sociale, de manière d'habiter et de cohabiter entre vivants humains et non-humains. Bref, je vous invite vivement à découvrir cet auteur et m'apprête à terminer cette chronique en nuançant mon propre propos. Résister, c'est aussi questionner, imaginer, créer et ouvrir d'autres possibles, vous disais-je tout à l'heure. Et pourtant, que ce soit auprès des Indiens Jivaros d'Amazonie, des militants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou dans l'anthropologie des luttes territoriales et des combats autochtones, c'est bien en puisant dans les expériences de ceux qui luttent et de ceux qui résistent que d'autres peuvent ainsi dessiner et esquisser une autre manière d'être au monde et nous laisser entrevoir, à notre tour, une autre manière de le faire.
Et donc c'était un portrait réalisé par Floriane de Alessandro Pignocchi. Alors il nous reste une minute tout pile. Timothy, où est-ce qu'on peut te retrouver, retrouver ton travail? Tu as un site internet, des réseaux?
Sur avenirdespixels.net, et après ça renvoie vers partout, vers le reste, voilà.
Très bien, et alors du coup tu es aussi ambassadeur justement pour dessiner pour résister, comment ça se passe?
Eh bien, oui, je vais être ambassadeur pour la Normandie de dessiner pour résister, mais parce que je souhaite faire rayonner ce travail le plus possible. C'est tout nouveau puisque on en a discuté hier avec la société de production et donc ça y est, c'est parti. Donc je l'annonce ce soir. Voilà, je suis ambassadeur pour dessiner pour résister pour la Normandie.
Eh ben, ça commence bien. Un ambassadeur déjà à l'antenne pour parler de ce combat. Et alors, juste le titre du livre que tu voulais nous présenter, dont t'as pas eu le temps, Alain, puisqu'il nous reste 15 secondes.
Donc, Adieu Birkenau, qui raconte l'histoire de Ginette Kolinka, qui est fait par Morvan Maté, Effa et Roger. Ça raconte comment était Birkenau et comment elle a fait pour transmettre aux jeunes générations son expérience.
Eh bien, merci pour cette recommandation. On notera de toute façon en description des podcasts toutes les recommandations littéraires qu'on vous a proposées. Un grand merci à Marion pour la technique, à David, Jonathan, Léna, Lafken, Alain, Timothy Duquesne, notre invité. Et on se retrouve dans 2 semaines. Et cette fois-ci, on parlera d'animaux. Oui, waf waf.